VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Dakar, 13h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. Au Tchad, le dépouillement se poursuit après la présidentielle du dimanche 10 avril. Le vote s'est déroulé dans le calme. Certains électeurs n'ont pas pu voter par insuffisance de bulletins de vote. Le point avec notre envoyé spécial à N'Djamena, Bagassi Koura.
Hier dimanche, la mobilisation était bien au rendez-vous. De longues files d'attente étaient visibles une bonne partie de la journée. Devant la plupart des bureaux de vote, il y a 13 candidats en liste, dont le président sortant Idriss Déby Itno. Ce dernier a voté vers 8 heures dans un bureau au centre de la capitale.
Je souhaite de tout cœur que les Tchadiens sortent nombreux, et faire leur choix. Il n'y a ni pression. Et tout doit se passer dans la transparence la plus totale.
Son principal opposant, Saleh Kebzago, a voté lui vers 10 heures devant son domicile dans le quartier Paris-Congo, dans le 6e arrondissement.
J'ai entièrement confiance dans le peuple, dans sa résolution de changement. Et je crois qu'aujourd'hui, si vous voyez des colonnes entières d'hommes et de femmes devant les bureaux de vote, c'est justement la preuve de cet engagement, de cet engouement, de cette volonté inébranlable de changement. C'est tout cela, je pense, qui motive les Tchadiens. C'est cela qui nous renforce dans notre conviction que notre pays va enfin se libérer du joug de la terreur.
Dans le bureau de vote 1, carré 24 de N'Djamena, on a dû refuser les nomades et les déplacés par défaut de bulletins supplémentaires. Daouda Kigangari est le rapporteur du bureau.
Donc chaque fois ici, les nomades viennent, les déplacés viennent se lamenter, tout ça. Là. On a appelé la CENI, bon, puisqu'ils vont passer nous voir, jusqu'à là, on n'est pas vu. Il n'y a même pas
de bulletin. À Boutal Bagara, un quartier à la périphérie est de N'Djamena, les choses ont mal tourné.
Depuis 9h, on n'arrive même pas à trouver les bulletins pour voter. Depuis 9h, il n'y a même pas de bulletins.
Au lieu de recevoir des bulletins de vote, c'est plutôt un déploiement important des forces armées auquel les électeurs de Boutal Bagara ont eu droit. Dona Bankali Tchakoto est l'un de ceux qui n'ont pu voter.
Comme ils ont déjà commencé à nous menacer avec les gaz lacrymogènes et avec les armes, vous entendez les tirs maintenant là, et on ne va jamais céder. Tant qu'ils veulent ou non, on décide ensemble de mourir. Et ils n'ont qu'à nous tuer comme ils ont l'habitude de le faire. Moi, je me sacrifie.
Bagassi Koura, N'Djamena pour VOA Africa.
L'élection présidentielle au Tchad s'est donc déroulée sous haute surveillance militaire et la capitale N'Djamena était quadrillée par les forces de l'ordre. Pour un coup de projecteur sur le déroulement de l'élection, Nathalie Barge a joint N'Djamena Mahamat Dinga Dimbaye, coordonnateur de la CACIDO, la coordination des associations de la société civile pour la défense des droits de l'homme, qui a déployé des observateurs dans tout le pays.
La CACIDO a couvert toute l'étendue du territoire national avec des observateurs nationaux. Nous avons déployé 3000 observateurs sur tout le Tchad, dont 500 pour la ville de N'Djamena. Eh bien, le constat fait, c'est que les élections se font dérouler dans le calme et la tranquillité. Et la première des choses également à observer, c'est que les Tchadiens sont sortis massivement. Et lors du dépouillement d'hier soir, nous avons constaté un très fort taux de participation de la population, ce qui augure la crédibilité de ces scrutins présidentiels. Bon, il y a également le constat, l'ouverture des bureaux de vote, qui dans beaucoup de bureaux de vote, pour des moyens logistiques, le bureau a été ouvert avec un léger retard, ou parfois un grand retard par-ci, mais qu'à cela ne tienne, les Tchadiens ont pu voter vraiment massivement. Bon, nous avons également relevé des bulletins nuls. Donc, il y a un problème de sensibilisation qui reste à faire au niveau des citoyens pour que, franchement, les gens puissent dorénavant bien comprendre la méthodologie du vote à bulletin unique.
Il a été cependant constaté par certains que dans des zones plutôt favorables à l'opposition, il n'y aurait pas eu assez de bulletins de vote. Est-ce que vous avez pu le constater ?
C'est pas seulement dans les zones où on peut appeler cela fief de l'opposition, mais je pense que de par les constats que nous avons eu à le faire, c'est de quelle idée de bureaux de vote il y a, manque des bulletins. Et là également, nos observateurs ont relevé cela et ont joué également un rôle important au niveau du président de la Commission électorale nationale indépendante au niveau des régions pour que nous puissions avoir rapidement des solutions.
Est-ce qu'il a été noté, notamment dans certains quartiers de la capitale, des problèmes de vote multiple ?
Nos observateurs ont eu à relever, je pense que tout cela. C'est vrai qu'il y a eu quelques tentatives très isolées, c'est-à-dire de fraude, mais je pense que la population, automatiquement, c'est les gens qui sont au niveau du bureau de vote ont eu à se poursuivre et la solution est trouvée immédiatement.
Pour quand peut-on s'attendre à des premiers résultats partiels hein?
Oui, bon, le code électoral donne un délai de 15 jours au niveau de la Commission électorale nationale indépendante. Mais je pense que la CENI, si un travail de logistique est fait très rapidement, je pense que à moins d'une semaine, à moins, on pourrait déjà avoir une idée sur les résultats. Et les grandes tendances, je pense qu'on peut même les avoir dans les 2, 3, 4 jours.
Mahamat Dingadimbay, coordonnateur de la CACIDO, la coordination des associations de la société civile pour la défense des droits de l'homme au Tchad.
VOA Afrique en direct de Washington.
Soudan du Sud, un total de 1370 soldats et policiers ex-rebelles sont arrivés à Djouba, la capitale, pour garantir la sécurité de l'ancien chef de la rébellion, Riek Machar, nommé vice-président en février, qui doit, lui, y revenir lundi prochain pour former un gouvernement de transition avec le président Salva Kiir. Le retour de M. Machar à Djouba entre dans le cadre de l'accord de paix conclu avec M. Kiir le 26 août 2015, qui prévoit un cessez-le-feu, un mécanisme de partage du pouvoir pour mettre fin à plus de 2 ans d'une guerre civile dévastatrice. Et puis, au Soudan voisin, les bureaux de vote ont ouvert ce lundi au Darfour, dans l'ouest du pays, pour un référendum sur le statut administratif de cette région troublée. Les électeurs doivent décider s'ils veulent conserver la structure actuelle du Darfour, divisée en 5 États, ou de les fusionner en une seule et même région. La première option est soutenue par le président Omar al-Bashir, mais critiquée par les observateurs qui affirment qu'elle renforce encore le contrôle du pouvoir central sur cette région d'environ 500 000 km², dont le sous-sol recèle d'importantes richesses. La consultation est boycottée par les groupes rebelles. Les insurgés soutiennent que les combats ne sont pas propices à l'organisation d'une consultation électorale. Élection au Comoro maintenant. Le dépouillement se poursuit après un vote qui a été marqué par des incidents à Anjouan, l'une des 3 îles de l'archipel. Il s'agit de départager les 3 candidats qualifiés pour le second tour de la présidentielle. Michel Joseph.
Le dépouillement a débuté dès la fermeture des bureaux de vote. Quelques 300 000 Comoriens étaient appelés aux urnes dans les 3 îles qui constituent l'archipel, à savoir Moéli, Anjouan et la Grande Comore. Le candidat du pouvoir, Mohamed Ali Swalihi, dit Mahamadou, fait face à l'ex-poutiste Azali Assoumani, qui avait gouverné le pays de 1999 à 2006, et à Mouigni Baraka, gouverneur de Grande Comore. D'après la Constitution, la présidence tournante revient cette fois à la Grande Comore. Le colonel Assoumani et Mamadou ont enregistré de précieux soutiens, mais le gouverneur Mouigni Baraka, moins connu sur les 2 autres îles, veut croire en ses chances. Sur l'île d'Anjouan, des partisans de l'ex-président Ahmed Abdallah Sambi, qui soutient le colonel Assoumani, ont perturbé le vote et ont même cassé des urnes. Les premiers résultats ne sont pas attendus avant mercredi.
Hors d'Afrique, les troupes syriennes préparent une opération pour la reprise d'Alep avec l'aide de l'aviation russe dans le conflit en Syrie. C'est du moins ce qu'a affirmé hier le premier ministre syrien Wael al-Alki quand il a reçu une délégation de députés et de sénateurs russes selon l'agence de presse Interfax. Et pour terminer, premier secrétaire d'État et plus haut responsable gouvernemental américain a visité le mémorial d'Hiroshima au Japon. John Kerry s'est dit profondément ému aujourd'hui devant la puissance de ce lieu qui selon lui, rappelle avec force et dureté la nécessité de se débarrasser des armes nucléaires. S'il n'a pas présenté des excuses formelles des États-Unis pour le premier bombardement atomique de l'histoire, il a plaidé devant la presse pour un monde sans armes nucléaires.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.